Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, Arnaud Laporte. Bonsoir à toutes et à tous. On commence par un chiffre 117. C'est en millions d'euros, lit-on dans l'Express de cette semaine, la somme déboursée par la maison de disques Sony pour s'attacher les services d'Adèle, dont le contrat avec le label indépendant britannique XL Recordings était arrivé à expiration, soit le plus gros chèque jamais signé pour un artiste. En 2002, Robbie Williams et EMI s'étaient mis d'accord pour seulement 104 millions d'euros. La chanteuse de 28 ans a vendu près de 60 millions d'exemplaires de ses trois premiers albums, 19, 21 et 25. La méga star de l'industrie de la musique, c'est elle. Plus modestement, Renaud n'a vendu que 500 000 exemplaires de Toujours Debout. Plus exactement, en 6 semaines, ce nouvel album, son 16e enregistrement, a été écoulé à 505 747 exemplaires, un score historique. Salut Emmanuel Marolle dans Le Parisien, qui lui assure déjà, sauf surprise, d'être la plus grosse vente de 2016. Décryptage d'un retour triomphal. En juin 2015, Renaud annonçait son retour dans les colonnes du Parisien. Il avait les chansons, allait les enregistrer dans le courant de l'été pour une sortie en septembre. Dès cette première date annoncée, chaque semaine, des clients venaient nous demander quand sortait finalement son album. Se souvient Jérôme Leclerc, vendeur au rayon disque du magasin Cultura de Saint-Maximin dans l'Oise. La sortie est annoncée pour début 2016. En décembre, nous avions commencé à envisager une mise en place dans les magasins de 300 000 exemplaires, explique Thierry Chassagne, le PDG du groupe Warner, le label de Renault. Mais nos représentants commerciaux sentaient une telle attente des vendeurs qu'en février, on a décidé d'aller jusqu'à 400 000. Et face à la demande, on a fini par en commercialiser dès le premier jour 470 000. Un chiffre historique quand, en moyenne, une belle mise en place tourne autour de 100 000 exemplaires. L'album sort le 8 avril et les compteurs s'affolent. Près de 200 000 exemplaires vendus durant les trois premiers jours, un peu plus de 287 000 au total en 7 jours, un record sur les 13 dernières années. En 10 ans, je n'avais jamais vu ça, confirme Emmanuel Ledorlot, disquaire au rayon variété de la Fnac Saint-Lazare. Même quand il était absent, les classiques de Renault se vendaient toujours, comme Mistral gagnant ou Boucan d'enfer. Les gens ne l'ont pas oublié. Il y a beaucoup de fans qui le suivent depuis longtemps, qui nous ont même demandé de réserver la version collector ou l'album en vinyle, explique Jérôme Leclerc. Des plus jeunes ont également acheté le CD. La bande à Renaud, l'album de reprise de ses chansons par Louane, Cœur de Pirate, Indochine ou encore Raphaël, sorti en 2014, a amené un nouveau public qui voulait cette fois entendre le vrai. Et puis Renaud ne se contente pas de vendre des disques, ses concerts sont déjà pleins. J'avais prévu d'éventuelles dates supplémentaires dans chaque ville, raconte Rose Léandry, la patronne de VMA qui produit ses concerts. Et là, je suis en train d'ajouter un troisième concert à Lyon, à Lille. On a déjà 10 zéniths à Paris à l'automne et on va en programmer d'autres en mai 2017. Au total, nous avons déjà vendu plus de 400 000 billets sur 110 concerts alors que la tournée ne démarre qu'en octobre. La voix tiendra-t-elle ? S'inquiète Emmanuel Marolle. La scène, c'est la plus grande drogue pour un artiste et le plus grand médicament, insiste Rose Léandry. Renaud a toujours été galvanisé par les concerts, un peu comme AC/DC. On a parlé ici du remplacement pour cause de surdité menaçante de Brian Johnson par Axl Rose des Guns N' Roses, mais Paris Match nous en apprend de belles sur les pistes envisagées par Angus Young pour remplacer le chanteur du groupe de heavy metal. Parmi les plus saugrenus, trouver un artiste par ville pour les 13 concerts prévus en Europe. Johnny Hallyday a donc été très sérieusement approché à plusieurs reprises pour la date de Marseille. Le rocker national n'a pas donné suite. Dommage, Back in Black par le chanteur de Noir, c'est Noir, ça a eu Contrairement à Johnny, il est le premier à le reconnaître. Paul Simon, dont vous allez disputer dans quelques minutes, n'est pas un performeur né, mais je pense être un bon directeur d'orchestre, déclare-t-il à Olivier Nuc dans Le Figaro. Ce que je dis le plus souvent aux musiciens, c'est jouer moins de notes. Je les encourage à me prévenir s'ils s'ennuient. Je ne les paye pas pour cela. Je ne les traumatise pas. Je ne gueule pas quand ils se trompent. Je suis ouvert et surtout, j'ai un répertoire large. Je peux toujours ressortir un tube comme You Can Call Me Al, qui mettra tout le monde d'accord. Cette chanson, je l'ai trop jouée, dit Paul Simon, mais je continue de la faire parce que les gens l'adorent. Vous voulez connaître son histoire ? Oui, Paul, nous voulons connaître son histoire. Au début des années 1970, je vivais avec ma première épouse Peggy, je dis bien Peggy, dans une maison de l'East Side, dans laquelle nous avions organisé une fête avec d'autres musiciens de rock. J'y avais convié mon ami compositeur Stanley Silverman, qui devait ce soir-là faire le tour de la ville à Pierre Boulez, fraîchement nommé chef d'orchestre du Philharmonique de New York. J'ai proposé à Stanley de venir avec lui, ce que Boulez a accepté. Je les ai accueillis, Stanley nous a présenté, Peggy et moi. Au bout de 20 minutes, Stanley m'a prévenu que Pierre était prêt à repartir. Je suis allé l'accompagner. Il m'a dit « Je suis désolé de devoir partir, cher Al. Transmettez mes amitiés à votre épouse Betty. » Il avait mal compris nos prénoms. Pendant 3 semaines, mon épouse et moi, nous donnions du Al et du Betty à tout bout de champ. Et de longues années après, j'en ai fait une chanson. Si Pierre Boulez avait su que ce tube lui devait tout, eh bien peut-être aurait-il tout simplement demandé des royalties.